Au Poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Alors, nous avons notre invité, Hervé. Il a son petit café. Et je viens de dire, oh là là, il y a un raid. Alors, vous comprenez bien que la Horde, maison antifasciste s'il en est, belle maison s'il en est, quand je lui ai dit le mot raid, il s'est dit, c'est quoi un raid? Alors, pendant que tu bois ton café, avant que tu puisses mettre ton masque, afin de ne pas être reconnu et pas être dérangé par tes fans, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un raid. En fait, Host Politique, qui chaque matin, du mardi au jeudi, fait une émission, une revue de presse, à la fin de sa revue de presse, il dit hey, « Eh les gars et les filles, si on allait voir quelqu'un d'autre, et si on allait voir au poste ?» Et donc, ça s'appelle un raid, parce que c'est la culture gamer de Twitch au départ, et donc c'est comme ça. Donc, c'est un raid amical, comme dirait Donald Trump, ne t'inquiète pas. Je vais commencer l'introduction, le temps que tu boives ton petit café tranquillos, et d'abord dire que je suis... heureux que nous puissions, je l'espère, faire œuvre peut-être d'éducation populaire, en tout cas de réflexion collective dans ces moments que nous sommes tous ensemble en train de traverser. Un raid préventif, voilà exactement. L'antifascisme a une histoire et des tactiques, des méthodes et des perspectives à l'heure où le fascisme cogne à la porte. Le rouleau compresseur politico-médiatique voudrait écraser celles et ceux qui lui résistent. On va faire le point avec Hervé de la Horde. La Horde, c'est un collectif, c'est une plateforme qui existe depuis une douzaine d'années, qui a dans son effectif des jeunes gens et des vieux, des gens qui étaient là déjà à l'époque de Ralph Ron. On va parler un peu de l'histoire de l'antifascisme en France et on va essayer de voir où on en est aujourd'hui. Mon cher Hervé, te voilà armé et équipé. Le micro, il faut le mettre bien près, d'autant plus que tu as un masque. Comment vas-tu ?
Bonjour déjà, bonjour à toutes les auditrices, les auditeurs d'Au Poste. Et puis, merci pour l'invitation. C'est vrai que on est dans un contexte un peu particulier, mais faut faire avec.
Exactement. Et je te remercie d'avoir pris le métro pour venir ce matin, alors que tu es normalement en vacances. Mais tu t'es dit, ça vaut peut-être le coup quand même d'expliquer deux, trois petites choses. Alors, la première chose quand même, la Horde, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, sachant que tu es déjà venu au poste il y a des années pour le jeu qui est juste derrière là-bas, qui s'appelle, je ne sais même plus, tiens, comment il s'appelle votre...
Antifa le jeu.
Antifa le jeu qui avait été censuré par la FNAC, etc. Vous avez récemment sorti un autre jeu. Et est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que la Horde ?
Alors, la Horde, c'est un collectif antifasciste, mais un petit peu particulier parce que nous, on ne fait pas de travail de terrain. Alors, en réalité, les militantes, les militants qui sont à la Horde peuvent avoir un double engagement dans des groupes antifascistes locaux. Mais l'objectif du collectif, nous, c'est de proposer des outils au service des antifascistes, qu'ils soient organisés ou non. Donc à la fois en direction des groupes, mais aussi en direction des individus qui voudraient lutter contre l'extrême droite. Et pour ça, on a trois outils, trois axes. Le premier, c'est d'animer un site internet qui sert en premier lieu de vitrine à toutes les initiatives antifascistes qui peuvent être prises en France, avec un agenda, et puis on essaye de recenser et aussi d'archiver tout ce que les groupes antifascistes autonomes peuvent faire dans le cadre de la lutte contre l'extrême droite. Bien sûr, les groupes antifascistes font bien d'autres choses, mais nous, on se limite, pour pouvoir tout simplement suivre, à la lutte spécifique antifasciste contre l'extrême droite. Et sur ce site, on propose aussi des textes, dans leur rubrique repère, qui servent un petit peu, quand il y a une actualité comme celle-là, à donner de matière à réflexion. Ça, c'est le premier axe. Sur le site, on a aussi la possibilité de commander du matériel. Ça, c'est le deuxième axe important. On produit du matériel, des stickers en grande quantité, des infographies. Donc, pendant un temps, les gens qui nous connaissaient à travers un schéma de l'extrême droite qu'on fait depuis 15 ans maintenant et qu'on met à jour régulièrement. On a fait aussi une carte, on a fait aussi une chronologie, des outils visuels comme ça. Et ensuite, on a également, en collaboration avec les éditions Libertalia, publié deux livres, une traduction d'une histoire du mouvement antifasciste allemand et un livre qui s'appelle « 10 questions sur l'antifascisme », qui est à la fois un usuel et puis aussi un témoignage, puisqu'on parle aussi de ce que nous, on a pu faire ou de ce qu'on fait. Et puis également un manifeste, puisque, on en parlera sûrement aujourd'hui, l'antifascisme est devenu une lutte à défendre. Et ce petit livre, 10 questions sur l'antifascisme, est en téléchargement libre sur le site des éditions Libertalia, pour celles et ceux qui voudraient y jeter un coup d'œil. Et puis, enfin, dernièrement, on a créé deux jeux de société. Donc, un qui est toujours dans une perspective d'éducation populaire. Le premier, Antifa le jeu, c'est en fait une espèce de jeu de rôle.
Un jeu injouable.
Non, c'est pas un jeu injouable, c'est l'histoire. Bon, on va peut-être pas trop parler d'Antifa le jeu aujourd'hui, parce qu'on l'a déjà fait ici, mais...
Il est difficile, mais il est magnifique. Par contre, il est très beau, il est plein d'informations, etc.
En fait, c'est un jeu qui a été créé à l'origine, non pas pour être joué comme ça,
mais comme un outil.
Le soir, mais comme un outil de formation. Donc, absolument. On l'a édité parce qu'on nous l'a réclamé. Et puis, c'était aussi une idée de rendre un outil plus accessible que simplement... Parce que sinon, avant, on était obligé de nous déplacer avec le jeu, donc c'était compliqué. Et puis après, il y a eu toute l'histoire qui fait que le jeu a eu un succès qui n'était pas dans les intentions de départ, on va dire, puisque nous, on voulait simplement que ce jeu soit utilisé dans un cadre de formation, donc en particulier par les groupes antifascistes. Et puis Fachorama, là, pour le coup, c'est l'inverse. On a tenu quand même compte des remarques sur la difficulté du jeu Antifa, qui en soi pas un jeu difficile quand on est habitué aux jeux de société. En réalité, c'est pas non plus un jeu
c'est
difficile, mais bon, c'est vrai que c'est plus pour les joueurs, les joueuses, ou les gens qui ont le temps. Là, on a fait un jeu plus apéritif, on va dire, Fachorama. Il est facile à prendre en main, etc. Mais toujours pareil, l'objectif, c'est toujours le même. Cette fois, c'est un jeu sur l'extrême droite, plus pour montrer que l'extrême droite a bien des visages, bien des options aussi, et que souvent, les gens ont une vision assez limitée, un peu stéréotypée aussi. Et donc, voilà, c'était l'idée de... Et après, autour de ces jeux, mais là, notre corps défendant, il y a eu des polémiques qui leur ont donné une grande visibilité. Tant mieux pour nous, mais c'est des jeux qui étaient quand même à destination au départ, vraiment l'objectif, ça je le répète, de formation.
Oui, voilà,
parce que c'est le troisième axe de notre collectif,
voilà.
C'est qu'on anime aussi des rencontres. Alors toujours, nous on n'organise rien, c'est toujours à la demande de structures antifascistes, ça peut être des groupes, des associations, des syndicats, et voilà, nous on intervient pour parler et antifascisme et extrême droite.
Est-ce que, comment je peux te présenter ? Est-ce que tu parles au nom de la Horde, puisque tu ne peux pas parler au nom de l'antifascisme, parce que l'antifascisme, tu me diras si je me trompe, il n'est pas singulier, il n'est pas unique. En fait, il a une histoire et il a différentes formes, différentes perspectives. Mais on peut dire que tu vas là parler, oui, voilà, au nom du collectif. En tout cas, c'est la vision du collectif que tu vas exposer ici. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Oui, ça c'est. Tu fais bien de le rappeler. Hein. Ça c'est autre chose. Parfois, il y a un petit malentendu sur ce que nous on est. La Horde, c'est ni un réseau. Ni une coordination, on n'a pas une position surplombante à l'égard du mouvement antifasciste en France, qui soit même pas sur le mouvement antifasciste autonome, qui est autonome par définition, et c'est au groupe antifasciste à s'auto-organiser en coordination, etc. Donc nous, on n'a pas du tout une position surplombante, au contraire, c'est presque l'inverse. Nous, on est plutôt à la base quoi, pour soutenir... par nos outils, l'activité antifasciste. Et puis, l'autre part, c'est ce que tu dis aussi, et tu as bien raison, l'antifascisme ne nous appartient pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le livre. Quand on dit 10 questions sur l'antifascisme, en fait, c'est sur notre vision à nous de l'antifascisme. Et c'est quoi notre vision à nous de l'antifascisme ? C'est avant tout une lutte d'émancipation, une lutte pour l'égalité. Et il se trouve que comme l'extrême droite défend le projet exactement inverse, c'est-à-dire un projet fondamentalement inégalitaire, eh bien c'est pour ça qu'on pense qu'il est nécessaire, malheureusement, parce qu'on aurait bien d'autres choses à faire, mais il est nécessaire de proposer des outils contre l'extrême droite qui représente un problème spécifique parmi tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer sur le chemin de l'émancipation.
Alors, Petit point technique, on me dit de te dire qu'il ne faut pas que tu rapproches trop le micro du masque.
Je croyais que fallait que je le colle.
Ben oui, mais en fait, là, ça frotte.
Ah, d'accord, c'est, okay. Désolé.
C'est compliqué, mais ça
est-ce
ça
que
va.
Là, c'est bon
là, oui, je pense que c'est bon.
C'est mieux là.
Ouais, oui, je pense que c'est bon.
Comme j'ai l'habitude de toucher le menton. Vous croyez qu'il fallait faire ça.
Voilà, exactement. Vous avez publié, La Horde a publié il y a peu de temps une tribune, violence fasciste, antifascisme, antifascisme, autodéfense et nos violences. On va parler de ces questions-là. On parlera à un moment donné évidemment de l'actualité, mais peut-être qu'on pourrait démarrer là-dessus. Ce qui s'est passé avec la mort de Quentin Deranck, est-ce que ça a redistribué totalement les âmes, les consciences, les cartes de l'antifascisme?
Alors, je pense pas. Pour plusieurs raisons. La première, et d'ailleurs, là, j'ai dans notre livre, la 10 questions sur l'antifascisme, une des questions, donc un des chapitres, c'est l'antifascisme est-il violent?
Oui.
Et finalement, quand on le relit, il résonne avec l'actualité, puisqu'il y a deux questions différentes qui sont posées, c'est celle du rapport à la violence et celle du rapport à la non-violence également. C'est-à-dire dans quel cas, dans le cadre d'une lutte contre l'extrême droite, la violence est une nécessité et en même temps, cette violence, elle doit être réfléchie, elle doit être questionnée. Mais là, le premier aspect, donc le rapport de l'antifascisme à la violence, qui a toujours été une question que nous, on s'est posée, alors que, et dans des termes radicalement opposés à l'extrême droite, puisque elle, l'extrême droite, pour elle, la violence, c'est un élan vital, c'est quelque chose qu'on glorifie, qu'on magnifie en interne, et puis c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour inspirer la crainte, et pour aussi entretenir une vision très antagoniste de la société entre groupes qui seraient naturellement voués à la guerre, guerre raciale, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, la séquence à laquelle on assiste, c'est aussi une espèce d'apogée d'une campagne anti-antifasciste qui a vraiment, alors qui existe depuis qu'il y a de l'antifascisme, mais qui en réalité a pris vraiment un coup d'accélérateur il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, au moment de la mort d'un jeune encore, mais cette fois d'un jeune antifasciste. Clément Méric, notre camarade. Et qu'on voit bien que la mort soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours le même discours médiatique, politique qu'on entend, c'est-à-dire une dépolitisation d'abord de la violence et d'autre part une mise en cause de façon complètement asymétrique des antifascistes. Dans un premier temps, même quand Clément a été tué, dans les premiers jours, bon, bah, y avait quand même plutôt un peu d'empathie, même de la classe politique, des médias, envers la victime. Mais très vite, on a commencé à renvoyer antifascistes et nationalistes, enfin néo-nazis, dos à dos. Et puis au-delà, de parler de la violence qui serait elle aussi constitutive de l'antifascisme. Et c'est ça qui est grave. Et donc, on voit bien que la séquence d'aujourd'hui, pourquoi je ne dirais pas qu'elle rebat les cartes, c'est parce qu'elle a le prolongement, finalement. Et on pourrait même presque dire l'aboutissement. C'est pour ça qu'on peut être un petit peu étonné. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu les images de militants néofascistes ou nationalistes qui parlent de la mort de Deranck, je ne dirais pas qu'ils exultent, mais y a une espèce de satisfaction, quelque part, pour eux, qu'il arrive enfin... ce qu'ils attendaient finalement qu'ils se produisent, non pas, comme on le voit depuis des décennies, des morts qui s'empilent causées par l'extrême droite, et dont la plupart ne font même pas la une de l'actualité, même pas un jour. Donc là, les morts s'empilent de leur côté, et là, enfin, ils tiennent leur martyr. Mais ils ne pourraient pas aligner un autre nom derrière, hein, y a personne d'autre. Donc ils tiennent enfin cette figure qui vient, on va dire, dans leur esprit, mettre le dernier clou sur le cercueil de l'antifascisme.
Alors j'ai un certain nombre de questions sur ce que tu as abordé là, mais je vais y aller dans l'ordre, notamment la dépolitisation. Je voudrais revenir sur la question de la violence. Vous écrivez dans le texte que j'ai cité tout à l'heure que... pour les antifascistes, la question de la violence est toujours posée comme un problème à résoudre. Est-ce que tu peux détailler ce que ça veut dire, un problème à résoudre ?
Alors, c'est un problème à résoudre parce que, comme j'ai dit, pourquoi la question de la violence se pose aux antifascistes ? Ça, il faut quand même toujours le marteler. C'est que le rapport violent, donc à la violence physique en particulier, mais aussi à la violence idéologique, elle est posée par l'extrême droite. Par définition, l'extrême droite a un discours de violence, d'exclusion, de discrimination, voire d'élimination, il faut quand même le rappeler, hein, puisque au bout du bout, quand on veut une société pure ethniquement, etc., au bout du bout, il y a le génocide, hein, pas autre chose. Et donc, il y a cette violence qui est là, et qui, en plus de ça, va se matérialiser concrètement. Alors, en premier lieu, bien sûr, contre les ennemis naturels de l'extrême droite, qui sont des gens qui sont attaqués, agressés, tués, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, que ça soit en raison de leurs origines ethniques ou de leur orientation sexuelle, de leur genre. Ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, cette violence, elle s'exerce aussi contre ceux qui se mettent en travers de leur route, leurs opposants politiques. Et ça, depuis toujours, depuis la fin du 19e siècle, depuis qu'en fait, le courant de la droite nationaliste émerge, dès le départ, il y a agression des opposants, et donc en réaction, des stratégies d'autodéfense, alors qu'ils vont prendre plusieurs formes à travers le temps, et qui continuent aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, les groupes antifascistes, ça, dans beaucoup de groupes locaux, c'est comme ça, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, un groupe local se construit? C'est très souvent à la suite d'une agression. C'est vraiment un mouvement de réaction. Et donc, à partir de là, la violence va s'imposer. Et c'est pour ça, pourquoi il faut qu'elle soit questionnée? Parce qu'il y a plusieurs risques pour le mouvement antifasciste. Le premier, c'est de s'aligner sur la vision de la violence de l'extrême droite. C'est d'ailleurs en acceptant ces codes, en acceptant le principe de groupes qui n'ont rien d'autre à faire que de se mettre sur la gueule ou de se battre aussi selon un certain nombre de... Le virilisme, par exemple, est vraiment un problème qui s'est posé dès le départ aux antifascistes et que les antifascistes, dès les années 80, ont posé, sans forcément le résoudre directement, mais en tout cas l'ont posé, parce qu'il y avait aussi ce spectre-là. Alors, il ne faut pas confondre virilisme, qui est présent dans l'antifascisme, et masculinisme, qui est autre chose, et là, qui, pour le coup, n'existe pas dans l'antifascisme. Ouais. Mmh. Mais, bien sûr, il y a ce risque-là, le risque aussi de mettre des gens en danger, etc. Donc, il y a tout un questionnement qui est toujours fait, et puis de respecter nos valeurs d'inclusion, c'est-à-dire que, par exemple, même pour protéger une initiative antifasciste, qu'on met en place un service d'ordre, il faut toujours se questionner, et c'est ce que font les antifascistes, sur comment on l'organise, comment on peut intégrer tout le monde, que ça ne soit pas quelque chose d'une spécialisation aussi ou un accaparement de la violence par un groupe défini, en général des jeunes hommes. Hein, donc là, il y a toujours cette réflexion, alors qu'on voit bien qu'à l'extrême droite, c'est exactement l'inverse. Au contraire, l'utilisation de la violence va s'intégrer complètement dans tous les stéréotypes de genre et même de classe au sein de leur mise en scène de la violence.
Je vais me faire l'avocat du diable pour essayer d'aller au plus profond des choses, mais tu sais bien de quel côté je suis. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tendance ces dernières années, ces dernières décennies peut-être, entre l'antifascisme des années 80 dont tu parlais tout à l'heure et aujourd'hui, chez certains groupes, il ne s'agit pas de les juger, mais d'essayer de comprendre s'il y a eu, oui ou non, évolution, une forme de peut-être pas de fascination, mais de plaisir au combat, à l'entraînement, au fight club, etc., qui pourrait amener une violence qui serait, pour le coup, presque dépolitisée.
Alors, non, je pense pas, parce que le rapport, disons, la fascination pour la violence ou le plaisir qu'on peut prendre à se battre, ça, c'est des choses qui ont toujours existé et qui existeront probablement toujours. C'est aussi des choses, justement, qu'il faut canaliser. Parce que c'est toujours pareil. Là, on parle, on est assis tranquillement sur un canapé. On parle de gens qui se battent comme si c'était... comme si on regardait ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, toute personne qui s'est retrouvée dans cette situation sait très bien à quel point la situation est confuse, à quel point tout ça va très très vite et à quel point il est difficile c'est pas le moment de réfléchir, on va dire. Donc il y a toujours ce risque. Ce qui a changé, je dirais, c'est et ça c'est vraiment du fait de l'émergence des réseaux sociaux, et encore une fois c'est l'extrême droite qui a un peu posé les bases de ça, en particulier avec un canal Telegram célèbre qui s'appelait OS Casual, c'est la mise en scène et le fait de se filmer et le fait de donner à voir et de mettre en scène, voilà, de spectaculariser cette violence. Ça, forcément, dans les années 80, ne serait-ce que pour des raisons techniques,
oui.
Le seul moyen de mettre en scène et de faire de la bagarre un spectacle, c'était d'aller la raconter au bar. Donc ça, des légendes urbaines, des combats épiques. Malheureusement, il suffisait de rester un peu tard dans n'importe quel bar fréquenté par des antifas. Il y avait toujours quelqu'un pour te raconter son action spectaculaire et comment il avait mis une grosse race aux faf. Mais franchement, voilà, on en était. C'était discussion de comptoir. Je te dirais, c'est un peu vrai de toutes les discussions de comptoir. Elles ont pris, avec les réseaux sociaux,
bien
du
sûr.
Coup, une grande visibilité et elles sont maintenant... mise à disposition de toutes et tous. Bon, bah, finalement, par l'image, par l'instrumentalisation aussi de cette violence-là, on le voit, il y a eu dans un premier temps, de la part de l'extrême droite, une mise en scène de leurs propres actions violentes pour inspirer la peur. Et ça a plutôt bien marché parce que nous, quand on se balade et qu'on fait des présentations sur l'extrême droite, on ressent à quel point l'extrême droite a réussi son coup pour donner d'elle une image... à la fois de personnes extrêmement dangereuses et quasiment invincibles. Et toute la mise en scène viriliste avec voilà, des militants qui passent beaucoup plus de temps à la salle pour essayer de se donner un physique impressionnant et la mise en scène de ça à l'extrême droite a plutôt bien fonctionné et a entretenu, enfin ça c'est pareil, c'est
bien sûr.
Le mythe du guerrier urbain et puis toute l'imagerie qu'ils utilisent, hein, le chevalier teutonique, le guerrier spartiate, tout ça, ça participe, ils s'inscrivent dans des espèces de gestes comme ça, chevaleresques de la magnification du guerrier. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect, l'autre instrumentalisation, et là, c'est plus récent, mais c'est plus massif aussi, c'est ce que le collectif Némésis ou le Média Frontières font, c'est-à-dire de mettre en scène à la fois... Donc il y a une partie de l'extrême droite qui met en scène leur propre violence pour inspirer la crainte, et puis il y a une autre partie qui se met en scène, cette fois en position de victime, pour accréditer la fable que la vraie violence, que les nouveaux fascistes, ce sont les antifascistes, la preuve, ils sont atteints eux-mêmes dans leur intégrité physique. Et la moindre petite violence, même le fait de recevoir un œuf, par exemple, ou de la farine, ou quoi que ce soit, ou même une baffe, ce qui est quand même pas non plus un truc de fou, tout de suite va être présenté comme quelque chose d'absolument inadmissible. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'effectivement, on sent, alors il y a un côté positif là-dedans, mais aussi un côté inquiétant, on sent qu'aujourd'hui, la moindre violence, la moindre atteinte à l'intégrité physique, même la plus symbolique, prend tout d'un coup une importance et devient absolument intolérable. Or, nous, par définition, on défend deux choses. D'abord, l'intolérance vis-à-vis de l'extrême droite, oui, c'est quelque chose que nous, on revendique, parce qu'on a on a de la mémoire, tout simplement. Et d'autre part, la possibilité qu'à un moment donné, pour se défendre, il faille être offensif. Parce que parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et en particulier, parce que l'extrême droite veut inspirer la crainte, il est important aussi d'inverser ce rapport de la peur et qu'à un moment donné, l'extrême droite reste à la niche, parce que c'est ça l'objectif. Quand même.
C'est ce que vous appelez une façon de conjurer la peur qu'ils, les fachos, essaient d'inspirer.
Oui, ça nous semble très important.
Alors, Lily, dans le chat, nous dit « Bon, d'accord sur le combat, sur les valeurs, sur la nécessité de l'antifascisme et la récupération des violences, mais un mot sur le fait de tabasser un homme à terre. »
Bien sûr, là, d'ailleurs, c'est pareil, je reviens sur 10 questions sur l'antifascisme, donc qui a été écrit en 2022, donc pas du tout dans l'actualité
oui,
présente.
Oui, bien sûr.
On précise bien que quand on dit qu'il faut se questionner la violence, qu'un des problèmes, par exemple, que nous, on avait pu voir dans des vidéos tournées par des antifascistes, c'est d'accepter les codes de l'extrême droite. Et un de ces codes, c'est effectivement, par exemple, de tabasser quelqu'un alors qu'on a la supériorité numérique, alors que ce n'est pas indispensable. Dans le cas lyonnais, dans le cas de cette affaire, il faut être prudent. Parce que les images qu'on voit, elles heurtent, elles choquent. Et de notre point de vue, elles questionnent sur la pratique. Mais on n'a pas tout le contexte, à un moment donné, sur un fait très précis comme celui-là, il faut aussi attendre d'avoir tous les éléments. Ça, c'est la première chose. Et bien sûr, quand je disais de questionner la violence, c'est en particulier sur des pratiques de ce genre, mais qui restent quand même, parce que c'est pareil, des exemples revendiqués de tabassage en grand nombre d'une personne par plusieurs, ça, à l'extrême droite, on en trouve des tonnes. C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait de le faire, c'est grave. Et puis, il y a le fait après de le mettre en scène et de le populariser et d'en faire une arme contre ses ennemis politiques. Ce qui là, en l'occurrence, n'a pas été le cas du côté antifasciste, et fort heureusement.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas de récupération médiatique du geste, voilà.
Mais justement... Et puis même, tout le monde, enfin, je veux dire, dans plusieurs textes, et dont le nôtre, nous, dans le texte, on le précise bien, que ces images-là, on le balaye pas du revers de la main en disant « oui, bon, bah voilà, bien fait », ou je sais pas, on ne peut pas valider cette pratique-là. Par contre, encore une fois, on invite à la prudence, parce que le fait d'être heurté, d'être choqué par ces images, n'implique pas, c'est ça qu'on nous explique, une condamnation morale et définitive des antifascistes qui se sont défendus ce jour-là. C'est ça qu'on veut dire.
Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des images, tu as parlé tout à l'heure des images et de comment l'extrême droite, depuis des années, travaille son imagerie et travaille nos imaginaires, etc., et provoque nos réactions. Est-ce que tu penses que c'est ce qui explique le fait que ce qui s'est passé à Lyon était filmé, diffusé, quasi en direct, par rapport à ce qui a pu arriver à Clément Méric, a sidéré, a aveuglé un certain nombre de gens. Alors, je ne parle pas de Frontières et compagnie, puisque je crois que tu as raison, ils cherchaient leur martyr, ils l'ont eu. Mais là, je parle plutôt du camp de la gauche. Je parle, par exemple, de Libération, qui va pas avoir le même titre quand c'est Clément Méric que quand c'est Quentin Deranque. Donc, c'est pas pour les accabler, eux, c'est pour essayer de comprendre, de par votre expérience à vous, là-haut, depuis tant d'années, comment tu analyses cette évolution du commentariat sur ce qui s'est passé? Et est-ce que c'est justement l'image qui a aveuglé, parce qu'elle est terrible, et qui empêche toute réflexion qu'on essaie d'avoir là?
J'en sais rien, je ne sais pas trop. Encore une fois, là, ça serait un peu lire dans... Enfin, c'est que de l'interprétation. On
oui.
ne peut pas répondre avec certitude là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que y a toujours beaucoup de couardise et de lâcheté dans ces moments-là. Parce que, bien sûr, les images, quand on les voit, en tant qu'antifasciste, ne pas être choqué par ça, ne pas se dire que bah voilà, c'est pas comme ça que nous, on agit, c'est une chose. Mais se désolidariser des militants qui, à un moment donné, ce jour-là, ont pris un risque et, encore une fois, ont été agressés par un groupe d'extrême droite, c'est autre chose. Et bien sûr, il y aura le temps de réfléchir et voir aussi de questionner certaines pratiques, ça c'est évident. Mais là, dans l'instant, on voit que le premier réflexe de ces médias et de ces politiques, c'est surtout de sauver leur peau. C'est surtout de se désolidariser en premier lieu, et puis après, on verra bien, quoi.
Bien sûr.
Ça, c'est classique, hein, je dirais. Et d'une certaine façon, avec Clément, c'est aussi un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans les premiers temps, tant qu'on avait l'impression que les histoires, elles étaient simples, mais les histoires de bagarre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais simple. C'est jamais simple, parce que c'est confus, parce que ça va vite, parce que c'est pas comme dans les films. Voilà, c'est pas ça. Et donc, du coup, au départ, quand tout le monde pense que c'est simple et qu'on a bien identifié qui sont les gentils, qui sont les méchants, ben, on se positionne. Et dès que tout d'un coup, ça se trouble, dès que tout d'un coup, les choses sont moins évidentes, ben, y a déjà une partie des gens qui sont plus là et qui vont juste essayer de sauver leur peau. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de classique et c'est un piège, heureusement, dans lequel les groupes antifascistes ne sont pas tombés. Il faut quand même préciser que l'antifascisme n'est pas... l'antifascisme autonome, c'est pas une grande famille dans laquelle tout le monde s'entend bien, dans laquelle il n'y a pas de tension, il n'y a pas de divergence. Voilà, c'est comme dans n'importe quel mouvement. Il y a des antagonismes. Mais fort heureusement, toutes ces tensions, toute cette histoire qui a pu être conflictuelle par le passé, eh bien, pour l'instant, on la met par-devers nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue ça, c'est de serrer les dents. De serrer les dents aussi, parce que, bah, effectivement, il y a aussi des choses qu'il faudra quand même dire à un moment. Mais là, c'est pas l'instant. Il faut aussi avoir cette... pas simplement ce courage, mais aussi cette lucidité de la séquence qui est en train de se jouer, qui est non pas d'accabler des jeunes qui auraient eu une attitude condamnable, mais de prendre l'antifascisme dans sa globalité, et c'est pas pour rien que c'est LFI qui est mise au pilori, c'est vraiment prendre et l'antifascisme et la gauche, je dirais, en général, et de la prendre comme punching ball. C'est ça l'objectif. Et c'est ça que je voulais dire, de prendre l'antifascisme et enfin de le détricoter, de le vider de sa substance pour pouvoir plus facilement le condamner. C'est à ça qu'on assiste quand même aujourd'hui.
Alors, il y a effectivement un certain nombre de collectifs ou de comités, par exemple le comité Antifa Saint-Étienne, les Antifa Paris-Banlieue. Vous avez tous écrit des communiqués qui vont à peu près dans le même sens. Donc, effectivement, il y a face à l'adversité qui vous est faite une forme d'unité qui n'est pas désagréable à voir, je te le cache pas. Je voudrais juste citer le comité Antifa Saint-Étienne qui a écrit ceci. La violence antifasciste n'est pas un projet de société, elle n'est pas une fin en soi, elle est une réponse à la violence historique, sociale et matérielle exercée par l'extrême droite depuis son existence. C'est exactement ce que tu as dit jusqu'ici. Se défendre face à une idéologie mortifère n'est pas une dérive, c'est une nécessité politique et morale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le terme de nécessité politique et nécessité morale par rapport à l'usage de la violence pour répondre à la violence.
C'est une nécessité à moins, donc ça je pense que ça a été bien dit, je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais cette nécessité, la seule chose qui pourrait l'empêcher, c'est pour se protéger de l'extrême droite, de s'en remettre à l'État et donc à la police. C'est ça l'alternative. En fait, quand à un moment donné, on dit qu'il y a une nécessité d'organiser l'autodéfense pour les antifascistes, c'est parce qu'à un moment donné, la violence légitime, qui est celle, la seule violence légitime dans la société, légitime entre guillemets, mais c'est celle de l'État. Or, pour toutes sortes de raisons que nous, on explique aussi dans le livre, et parce que la police est complètement gangrénée par l'extrême droite d'une part, et puis parce que dans ses missions mêmes, dans la violence que la police exerce, elle s'exerce aussi dans le cadre de politiques qui sont animées par des idées d'extrême droite, pour toutes ces raisons-là, et puis par le fait que l'antifascisme est de toute façon un but à la répression au-delà de ces affaires-là, fait qu'on n'a pas d'alternative. Parce que à un moment donné, il faut bien se protéger. Donc la nécessité, elle est là. Là où il y a une nécessité aussi morale, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est ce que veut dire exactement le texte, mais c'est aussi parce que la violence est une fin en soi à l'extrême droite qu'elle ne peut pas être, qu'elle peut pas être comme ça évacuée. Je veux dire, le concept là, qu'on essaye de nous vendre de militants d'extrême droite qui défendraient pacifiquement le racisme, etc.
C'est délirant.
Délirant, en tout cas, c'est pas délirant, parce que ça a du sens. On voit bien l'objectif. Mais par contre, là, il y a effectivement un enjeu politique. Un enjeu politique sur qu'est-ce que c'est que la violence. Et là, on voit bien que dans la séquence, on nous dit la violence, c'est plus grave, en fait, par exemple, de s'en prendre à du mobilier. Parce que toujours, là, est revenu aussi toutes les antiennes habituelles sur les casseurs, etc. Et là, on voit bien qu'il y a une violence qui est tolérée. C'est le racisme, en fait. C'est ça le fond du discours, c'est de dire, cette violence-là, ça ne serait pas de la violence. Et puis d'autre part, il y a aussi quand même, il faut le dire, même si ça a été dit dans beaucoup de textes, il faut quand même rappeler que la mort de Derenck, donc d'un militant néofasciste, a beaucoup occupé et la presse et la classe politique, alors qu'il y a eu d'autres morts. Donc, ce n'est même pas simplement la question de l'intégrité physique ou le fait que quelqu'un meure ou pas, puisque rien que sur les dernières années, c'est des dizaines de personnes qui sont tuées dans des conditions finalement similaires. Mais là, tout d'un coup, on leur donne une coloration politique, alors que les autres morts, qui sont aussi des morts politiques, parce qu'elles sont animées par des idées politiques, sont restées dans la case faits divers. Et ça, c'est autre chose qui est important de rappeler. Pourquoi la question de la violence, elle doit être questionnée et pas évacuée? C'est qu'il y a aussi, et dans la presse et dans la classe médiatique, la volonté de contenir la violence politique dans la rubrique des faits divers. Que ça serait en fait, comme ça, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec ni le contexte social dans lequel on vit, ni avec les idées défendues à travers des discours, etc., des programmes par les partis politiques, et que ça serait quelque chose comme ça qui serait hors sol, qui serait une espèce d'accident de parcours, un petit peu dans le même ordre quand, à propos des violences policières, on disait des bavures. Ça arrive, quoi. Mais pourquoi ça arrive? Dans quelles circonstances? ça ne nous intéresse pas. Bon, bah là, c'est la même chose. Dans le cadre de Rank, on lui a donné une coloration politique parce que ça permettait de taper sur l'antifascisme. Quand c'est des personnes racisées, en particulier, qui sont tuées par des militants d'extrême droite ou pour des motifs racistes, là, tout d'un coup, la politisation, elle disparaît. Et c'est ça que je pense qu'il faut continuer à répéter, à répéter, à répéter. La question, ce n'est pas simplement l'équilibre des morts. Nous, on le dit dans le texte, il ne s'agit pas de compter les points. Ah bah nous, il y a un mort, oui, chez nous, il y a des dizaines de morts, et puis chez eux, il n'y en a qu'un seul. Peu importe, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que d'un côté, il y a une reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est un fait politique, la mort de Derenc, nous on ne dit pas que c'est un fait divers, mais les autres morts le sont tout autant. C'est ça que nous, on dénonce. C'est vraiment le deux poids, deux mesures, mais pas au sens de l'équilibre, un espèce de truc un peu mortifère de qui a le plus de morts dans notre... dans leur camp, sachant que, dans chaque camp, sachant que le fait est que le décompte, il est vite fait. Ça, c'est par ailleurs. Bien mais sûr. Au-delà de ça, quand bien même ça serait un mort d'un côté, un mort de l'autre, c'est pas la question, c'est de la reconnaissance de qu'est-ce que cette violence, elle représente dans chaque camp. C'est ça le plus important.
C'est-à-dire ne pas parler de la violence par fétichisme, mais...
Oui, ou comme politique. Quelque chose qui serait abstrait et déconnecté d'un contexte social et des luttes politiques. Sachant qu'en plus de ça, c'est pareil, là on dit, oui, l'ensauvagement de la société, etc., alors que la violence politique, elle ne fait que diminuer. Je veux dire, si on regarde dans l'histoire, nous pareil, dans le bouquin, on fait un petit rappel des différents affrontements qu'il y a eu. Il y a 100 ans, il y avait à Montmartre, il y a les Jeunesses Patriotes, donc un groupe qui a voulu faire un meeting dans un quartier populaire. Il y a eu des affrontements, 2 morts, 40 blessés. Voilà. Et les gens, comme ils ont commenté ça, ils ont commenté, voilà, vous les fascistes, 2 morts, je précise, 40 blessés du côté de l'extrême droite. Commentaire de l'Humanité à l'époque, vous avez récolté ce que vous avez semé. Alors, je ne dis pas qu'il faut en revenir, moi je ne dis pas qu'il faut revenir à un niveau de violence politique exacerbé ou comme c'était il y a 100 ans, mais c'est pour dire que c'est un exemple, pour dire que, et puis ça n'a pas fait, voilà, c'était pour le coup, ça a été politisé, c'était reconnu comme un fait politique cet événement, mais ça n'a pas non plus, c'était un scandale national. Hein.
Comment tu expliques que la violence politique, quand elle est le fait de l'extrême droite, elle recueille une certaine clémence dans bien des médias, et l'autre, l'adverse, au contraire, se fait clouer au pilori.
Je dirais pas de la clémence, parce que c'est la violence de l'extrême droite, elle reste, elle est dénoncée. Par exemple, elle n'est pas revendiquée comme quelque chose de bien. Ça reste condamné.
Elle est passée sous silence.
Mais c'est passé sous silence.
C'est ça que je veux dire, c'est par ça. Clémence.
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que dans la presse, il faut faire sensation. C'est ça qui compte. Il faut à un moment donné de l'inédit. Or, finalement, depuis le temps que l'extrême droite tue des gens, je dirais pas que c'est devenu banal, mais il y a plus de surprise, quoi. Je veux dire, un néo-nazi qui tue quelqu'un, là, c'est comme on dit. Hein,
c'est vendu avec.
Un chien qui mord un homme, c'est pas un événement. Un homme qui mord un chien, ça fait la une. Bon, bah là, je dirais, si on reprend l'idée, un néo-nazi qui tue quelqu'un. Bon, bah, logique, on va dire, c'est pas un événement. En revanche, un antifasciste qui tue quelqu'un, bah là, tout d'un coup, il y a une espèce de transgression. Et le fait est que c'est vrai, il y a une transgression. Donc ça, il y a peut-être ce phénomène-là. Et puis l'autre chose, c'est que dans le contexte de banalisation et de normalisation de l'extrême droite, bah, ça fait désordre, le fait de continuer à mettre à jour, comme le fait quand même encore une certaine presse et les antifascistes, les projets d'attentats islamophobes de groupes d'extrême droite ou les morts. Alors à chaque fois on nous dit oui mais c'est qu'il y a quelqu'un qui était perturbé, etc. Certainement, mais peu importe, ça change rien à la motivation du geste. Et ça, dans cette tendance quand même vraiment lourde, non pas de domination forcément de l'extrême droite, parce que moi je pense pas que l'extrême droite a gagné la bataille des idées ou quoi que ce soit. En revanche, ce qu'elle a gagné, c'est à nouveau, elle a son rond de serviette à la grande table du système, entre guillemets, qu'elle a dénoncé pendant des années. Et ça aussi, c'est un truc assez curieux. On voit bien comment, en 10 ans, le discours victimaire de l'extrême droite, il a changé. Quand Clément est mort, L'extrême droite, c'était on est les victimes du système, on veut, voilà, on nous empêche de parler, la liberté d'expression, le système, ils se revendiquaient anti-système, et tout leur discours victimaire était sur, voilà, on nous met au banc de la société alors qu'on n'a rien fait, etc. Ça, c'est un discours qui a vraiment été alimenté pendant des années. Et là où on voit qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui, c'est que leur intégration est tellement achevée. Enfin, et on passe d'être vraiment, on va dire, achevé, que leur discours aujourd'hui, c'est de dire, c'est de se mettre du côté de ce système au nid et de pointer un nouvel ennemi intérieur, qui est la gauche en général et les antifascistes en particulier, et de dire, bah voilà, qui menace aujourd'hui la société, bah c'est pas nous, parce que nous, bah maintenant, on est bien intégrés, le racisme, c'est OK, le fascisme, c'est OK, puisqu'on peut faire une minute de silence pour quelqu'un qui le défendait à l'Assemblée nationale, c'est OK, le Rassemblement national, pareil, avec sa position, comme ça, de modération, presque, on pourrait dire, dans le contexte, puisque c'est ça qui est fou, c'est que dans la séquence, d'où sont venues les attaques ou les positions les plus affirmées du côté des LR. Je veux dire, c'est pas le RN, bon, alors on n'avait pas les moyens, mais c'est pas sur une mairie RN qu'il y a eu un portrait géant de Quentin Derenque, c'est sur l'hôtel de région, dirigé par Laurent Wauquiez. Donc c'est ça qu'on a assisté, où les Travail Famille Patrie, c'est la candidate Renaissance à Marseille qui l'a dit, c'est pas quelqu'un du RN. Donc on en arrive aussi à ça, que le discours et même les références de l'extrême droite ou l'anti-France d'Aurore Berger, enfin on pourrait multiplier les exemples.
N'est-ce pas quand même une illustration de la bataille des idées gagnée par l'extrême droite? Parce que, en tout cas, la bataille des esprits...
Ce qu'ils ont gagné, c'est la banalisation, c'est la normalisation de leurs idées. Quand je dis gagner la bataille des idées, ça voudrait dire que tout le monde pense comme eux. C'est ça que je pense pas. Je pense pas qu'au niveau de la société, c'est pas parce que Aurore Berger dit l'anti-France que tout le monde pense que LFI, c'est l'anti-France. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi une déconnexion, on le sait aujourd'hui, du monde politique et aussi du monde politique, parce que médiatique.
Médiatique,
parce que,
bien sûr.
L'Empire Bolloré, qui regarde CNews, bah, c'est les plus de 60 ans, principalement. Ce n'est pas quelque chose qui est regardé et validé par la société tout entière. Donc, il faut quand même garder la mesure quand on parle de victoire, parce que ça aussi, ça fait partie du narratif de l'extrême droite, de dire maintenant, on a gagné partout. On gagne partout, on est partout. Il y a plein d'espaces où ils ne sont pas. Ils ne sont pas dans la culture, ils ne sont pas dans les espaces de solidarité, ils ne sont pas ils sont pas non plus tellement présents dans le quotidien, il faut quand même le rappeler. L'extrême droite, elle est hors sol en France. Alors bien sûr, au niveau électoral, au niveau médiatique, au niveau de la reprise de son discours et de ses idées par la classe politique dominante, ça, il n'y a pas photo. Il y a une vraie victoire et un processus qui a été au bout, mais qui, je dirais, d'une certaine façon, est logique. Aussi parce que, allant dans notre camp, du côté de l'antifascisme, il y a eu aussi un côté un petit peu paresseux, à toujours renvoyer l'extrême droite à son histoire honteuse des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut toujours rappeler, il faut avoir de la mémoire. Mais se contenter de ça, et faire comme si l'extrême droite, elle n'avait pas changé, comme si elle n'avait pas évolué, je pense que ça a aussi, d'une certaine façon, favorisé sa normalisation. Il faut continuer à dénoncer l'extrême droite, mais pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas le fascisme, le nazisme des années 30. C'est autre chose qui est porté par le même projet inégalitaire. Ça, c'est clair. Il y a une continuité, mais continuité n'est pas reproduction.
C'est ce qu'on appelle l'antifascisme moral, ce que tu viens de décrire.
Alors, pas tout à fait. L'antifascisme moral, c'est encore un autre écueil de l'antifascisme républicain, on va dire, parce que pour le coup, dans l'antifascisme autonome, on l'a dénoncé quand même très rapidement, c'est de dire on est le camp du bien. Et par exemple, tout l'assimilation de l'extrême droite à la haine, dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont méchants, qu'ils sont violents aussi, parce qu'à un moment, quand la violence, elle prend cette dimension morale, elle pose problème. Le problème, c'est pas qu'ils soient violents, c'est qu'encore une fois, qu'ils magnifient cette violence et qu'ils en fassent une base pour les rapports sociaux. C'est quand même quelque chose de très différent. Et bref, cet antifascisme moral qui consiste à dire l'extrême droite, c'est pas bien, c'est ça. Ça nous semble très dangereux parce que, d'abord, c'est pas vrai. Moi, je dis pas que l'égalitarisme, c'est mieux que l'inégalitarisme. Je dis que c'est deux projets de société qui sont antagonistes. Il se trouve que moi, je préférerais vivre dans une société égalitaire et que c'est le sens de mon combat. Mais quelqu'un qui dirait, et c'est le cas de l'extrême droite, la société doit être construite sur des rapports inégalitaires, parce que c'est ça, parce que Dieu l'a voulu, la nature l'a voulu, parce que c'est la base des rapports sociaux, c'est comme ça que la société fonctionne, c'est bien leur droit. Simplement, c'est notre droit aussi, nous, de le dénoncer comme étant un projet qui est mortifère, non pas dans l'absolu, il est mortifère dans le cadre d'un projet de société d'émancipation, de solidarité et égalitaire. Là, dans ce cas-là, oui, pour nous, c'est une question de vie ou de mort, de lutter contre l'extrême droite, parce que le jour où son projet domine, il n'y aura plus de place, nulle part, pour des rapports égaux entre les gens.
Qui dit question de la violence, dit question de la non-violence. Il y a dans le chat à l'instant même, j'essaie de retrouver, c'est Murphy Peter, qui nous dit « Je suis antifasciste, mais pacifiste et démocrate, donc contre l'antifascisme violent et totalitaire. » Alors, ça amène deux questions. Est-ce qu'il peut y avoir un antifascisme violent qui irait main dans la main avec un antifascisme non violent, ou est-ce qu'il y a un antagonisme entre ces deux façons d'entrevoir les choses ?
Alors, ça dépend si tu parles de non-violence et de violence d'un point de vue théorique ou pratique. Dans la pratique, bien sûr, et ça s'est toujours vu, c'est très important dans l'antifascisme qu'il y ait une diversité des tactiques. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir, de façon coordonnée et sans opposition, différentes façons de lutter contre l'extrême droite. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a pu voir en acte en Allemagne au moment des grandes mobilisations contre la marche néo-nazie à Dresde. Il y avait à la fois et de façon coordonnée des gens qui faisaient des chaînes humaines, donc des actions non violentes autour de la ville, et en même temps des gens qui montaient des barricades et brûlaient des pneus et attaquaient, en tout cas avaient une attitude offensive. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est dans le cadre d'une réflexion sur la diversité des tactiques et qu'il y a plusieurs façons de lutter contre l'extrême droite, et qu'en plus de ça, ça c'est au titre collectif et à titre individuel, encore heureux, et c'est là aussi il y a une grande différence avec l'extrême droite, où à un moment donné, si vous rejoignez un groupe néofasciste, il va falloir prouver que vous êtes un homme. Là, je parle surtout, évidemment, là, pour le coup, c'est pas de prouver, juste qu'on a... Il va falloir s'accomplir en tant qu'homme dans l'action violente. Alors que, justement, c'est ça qui est très important, il faut absolument que, dans l'antifascisme, il y ait de la place pour toutes et tous, et y compris pour des gens qui ne veulent pas tout simplement aller à l'affrontement, ou qui ne veulent pas se battre. Mais que les gens qui aient ce positionnement-là soient respectés, mais que les gens qui aient un positionnement inverse le soit également, à condition, et ça c'est vraiment la condition la plus importante, que cette violence, elle soit réfléchie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas une fin en soi, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte antifasciste. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est contre-productif. Il y a des circonstances dans lesquelles la violence, elle doit surtout pas s'exercer. Et c'est vrai en particulier sur l'analyse du rapport de force, par exemple, ou sur ce que la violence peut avoir de contre-productive quand elle est instrumentalisée par l'ennemi, par exemple. Dans le cas de Némésis, du collectif Némésis, qui s'invite comme ça dans des manifs féministes ou même dans des manifs d'autres types, le fait qu'elle-même n'ait pas ce positionnement violent, qu'elle ne le pose pas, en tout cas dans leur apparition, même si elles ont derrière des groupes qui sont prêts à la bagarre, ça invite forcément à réfléchir à comment on va réagir par rapport à ça et ne pas se laisser entraîner. On voit bien le piège qui est tendu. Et dans ces cas-là, il y a quand même une réflexion à mener. Donc ça va vraiment dépendre des circonstances. Et sur la non-violence, je dirais que c'est la même chose. C'est-à-dire que de la même façon qu'il est important de questionner la violence, il faut aussi questionner la non-violence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, oui, la non-violence, politiquement, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais même les plus grands leaders de la lutte non-violente, enfin Gandhi, Mandela, etc., sont des gens qui l'ont toujours dit, qui n'ont jamais condamné. C'est pas parce qu'on se pose comme non-violent et qu'on va favoriser des actions non-violentes qu'on condamne la violence politique. On va la condamner dans son instrumentalisation, mais pas en soi. En fait, c'est là où il n'y a pas une opposition, à notre sens, entre violence et non-violence. C'est deux attitudes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, on va dire, parce que c'est toujours pareil. Je l'ai dit, l'extrême droite se construit aussi sur la peur qu'elle inspire. Donc à un moment, toujours tendre l'autre joue quand on se fait attaquer, ou rester passif aussi, parce qu'il y a ce problème-là de la passivité, c'est aussi, d'une certaine façon, encourager et donner corps à ce narratif. Et à l'inverse, quand il y a un narratif victimaire du côté de l'extrême droite, eh bien, systématiquement, sans réflexion, utiliser la violence, surtout quand cette violence ne rencontre pas de résistance et va donc pouvoir être instrumentalisée, ça doit être aussi être réfléchi. Mais c'est vrai que là, tout le monde parle de la violence, de la violence, de la violence, mais à un moment donné, nous, on dit, OK, bien sûr, il faut y réfléchir, il faut se questionner, mais la non-violence aussi pose question. C'est pas non plus une fin en soi, en fait, la non-violence. Ce qui est une fin en soi, c'est d'avoir des rapports apaisés, et pour ça, pour nous, ça passe par des rapports égaux entre les gens, mais ça ne veut pas dire que dans la société, même une société idéale, égalitaire, etc., il n'y aurait pas de conflit. Pour nous, la conflictualité, ça fait partie des rapports humains.
Tu disais tout à l'heure que dans le mouvement Antifa, il y a différents courants, on va dire. Et dans les années 90, quand on lit votre bouquin là, sur les 10 questions, il y a tout un rappel historique. Il y a en fait la mise en place, me semble-t-il, de ce que tu appelles régulièrement là, dans notre causerie l'antifascisme autonome. Et il y en a un autre qui est celui qui serait électoral, qui serait parlementariste, d'une certaine manière incarné par la jeune garde. Il ne s'agit pas de te faire dire du mal de qui que ce soit, mais d'essayer de comprendre là aussi les logiques à l'œuvre. Donc d'un côté, plutôt un antifascisme de rue qui ne joue pas forcément le rôle démocratique, en tout cas c'est pas son but, et un autre qui essaie de jouer aussi le jeu démocratique républicain. Alors, on va dire ça. Où est-ce que ça a bloqué, qu'est-ce que ça dit, cette évolution?
Alors, pour revenir à l'histoire, c'est pas exactement une opposition. C'est pas une opposition entre antifascisme de rue et antifascisme électoraliste. L'opposition entre ce qui s'appelait à l'époque antifascisme radical et que nous on renomme parce que ça nous semble plus juste antifascisme autonome, et puis ça résonne davantage avec comment les groupes se définissent aujourd'hui, et antifascisme républicain.
Autonome des orgas, autonome des assos.
Je vais l'expliquer. Vas-y. C'est plutôt donc entre antifascisme autonome et antifascisme républicain qu'il y a une fracture. Et c'est vraiment la lecture de qu'est-ce que l'extrême droite. Dans un cas, si je prends par exemple l'antifascisme républicain, et l'antifascisme républicain, c'est pas, en tout cas à l'époque, donc incarné par le réseau Ralfront, ça serait injuste de dire que c'est un réseau électoraliste. Parce que c'était aussi, au sein de Ralfront, il y avait aussi beaucoup de gens qui se pensaient antifascisme républicain, mais qui n'étaient pas à la botte des partis politiques, et qui étaient aussi très critiques vis-à-vis de la gauche de gouvernement en particulier. Donc il faut quand même... pas être trop manichéen non plus. En gros, il y aurait un antifascisme autonome libre et un antifascisme républicain vendu. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Mais en revanche, c'est vraiment la lecture de qu'est-ce que l'extrême droite. Et dans un cas, et c'est vrai que nous, on s'inscrivait pas là-dedans, dans un cas, il y a, et c'est le cas de l'antifascisme républicain, dit l'extrême droite, historiquement, est un mouvement anti-républicain, anti-démocratique, et donc... Pour lutter contre l'extrême droite, c'est aussi faire appel à cette histoire-là et dire lutter contre l'extrême droite, c'est défendre le cadre républicain, c'est défendre la démocratie. Et donc, toute l'assimilation que fait l'antifascisme républicain de l'extrême droite au nazisme, au fascisme, etc., s'inscrit dans cette perspective. Et par exemple, on pouvait trouver dans l'antifascisme républicain des pétitions pour demander l'interdiction ou la dissolution du Front National comme étant un danger mortel pour la démocratie. Et ça s'entend. Mais ce que nous, dans l'antifascisme autonome, on disait, c'est que, bien sûr, l'extrême droite est anti-républicaine, bien sûr, l'extrême droite est anti-démocratique, mais ces idées s'intègrent parfaitement dans le cadre républicain et dans le cadre démocratique. Et la meilleure preuve, c'est même la façon dont l'extrême droite, même historiquement, même le fascisme, même le nazisme, est arrivée au pouvoir. On l'a bien vu qu'elle est arrivée en respectant les règles du jeu de la démocratie participative et représentative, pardon, ma langue a fourché, tellement j'ai envie que ça soit pas ça. Mais, donc vraiment, on voit bien que le jeu électoral, finalement, c'est pas un obstacle pour l'extrême droite. Et c'est d'autant plus vrai qu'en France...
Pour dire que les choses clairement, ça n'est pas qu'une défense de la démocratie, parce que la démocratie peut amener aussi le fascisme au pouvoir.
D'une part, c'est et que le cadre républicain, ça c'est vraiment l'expérience des années 90, depuis les années 80, même depuis toujours, on voit bien que le cadre républicain n'est pas un barrage en soi aux idées, à la mise en pratique des idées de l'extrême droite. Et qu'est-ce qui nous l'apprend ? Eh bien, c'est les politiques sécuritaires, c'est les politiques d'immigration des différents gouvernements de droite et de gauche depuis 50 ans. Donc ça, c'est là-dessus que nous, on s'appuie. Après, est-ce que ça voulait dire qu'il y avait un antagonisme tellement fort entre les deux formes d'antifascisme qu'on ne pouvait pas collaborer ? Bien sûr que non. On pouvait se retrouver, mais simplement, il y avait cette lecture-là qui était différente. Après, localement ou sur des campagnes, on pouvait se retrouver, il y a eu des campagnes communes, mais avec quand même cette limite, et que souvent, l'antifascisme républicain pouvait se poser de rester indépendant des mouvements politiques. C'est-à-dire, les mouvements politiques pouvaient participer à l'antifascisme républicain, s'y associer, mais au moment des élections, il y avait une certaine prudence, et souvent un rappel, même dans l'antifascisme républicain, des problèmes que pose la récupération des idées de l'extrême droite à des fins électoralistes, y compris par des mouvements dits de gauche, comme le Parti Socialiste, pour pas le nommer. Après, dans le cas de la Jeune Garde, c'est un petit peu différent, puisque justement, ils ont un peu un... C'est la particularité de ce mouvement,
c'est les deux tableaux,
très rapidement
en fait.
De jouer sur les deux.
Voilà.
C'est-à-dire d'être à la fois un antifascisme qui s'est construit dans l'autonomie et avec des pratiques d'antifascisme autonome et des pratiques de rue, par exemple, mais pas que, hein, de manifs, etc. Enfin, des pratiques semblables, mais avec à un moment donné le choix qui peut être discuté, hein, que nous, en tout cas, sur lequel on a beaucoup de réserves, pour offrir à l'antifascisme une caisse de résonance, de s'appuyer sur un parti électoraliste, LFI en l'occurrence. Ça, c'est un choix qui a été fait par la Jeune Garde, mais qui est un choix vraiment singulier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre exemple dans la scène antifasciste contemporaine de groupes. Alors, il y a des réflexions sur faut-il ou non participer à la vie publique selon les codes de la démocratie représentative. C'est par exemple toute la réflexion qu'il y a dans des groupes antifascistes du côté de Lille ou aussi du côté de Saint-Étienne sur le communalisme, c'est-à-dire le fait de participer à hauteur au niveau municipal,
à la vie locale,
mais à la vie locale, y compris pourquoi pas en participant aux élections, mais avec non pas en se mettant derrière un parti, mais en proposant une réflexion sur qu'est-ce que c'est prendre des décisions collectives au niveau local. Et voilà, c'est un projet plus libertaire finalement, mais qui joue sur le terrain électoral. Donc il y a des questionnements au sein du mouvement antifasciste sur qu'est-ce qu'on fait, alors que, parce que c'est toujours pareil, dans les années 80, 90 et même 2000, au niveau électoral, le poids de l'extrême droite est à la fois toujours grandissant, mais la menace d'une arrivée concrète au pouvoir reste assez faible. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent où on voit bien que les élections, pour le coup, sur le plan électoral, l'extrême droite est vraiment en position dominante à toutes les échelles, même municipales, on va bien voir, mais a priori, malheureusement, ça ne s'engage pas bien. Et donc, c'est normal, il ne faut pas non plus faire l'autruche et dire « Ah, élection piège à con », et puis on n'avoir rien à faire. Donc, c'est normal. D'un point de vue antifasciste, le fait qu'aujourd'hui, c'est principalement, pour ne pas dire exclusivement, dans les urnes.
On peut faire les deux. On peut dire élection piège à con.
Oui.
Et prendre ça très au sérieux.
Je pense que. Tu vois. Je pense aussi élection piège à con, c'est quelque chose que je parle. On peut pas s'en contenter. C'est ça.
Oui, absolument.
C'est-à-dire, c'est une position de principe. Et nous, dans l'antifascisme, on se paye pas de mots. Un antifasciste qui se payerait de mots, c'est un antifascisme qui n'aurait pas de sens. Donc, on doit faire avec la réalité. Et donc, il y a un questionnement à avoir à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qu'on fait face à une extrême droite justement qui n'est plus comme dans les années 90, où même le FN, le Front National de l'époque, était une machine militante extrêmement forte, avec des démonstrations de force dans la rue, avec un service d'ordre qui menait des attaques, etc. Donc il y avait cette dimension, on va dire, de terrain, et puis avec énormément de permanence. Ils faisaient une fête, un type fête de l'humanité pour les FAF, là, la fête des Bleus, Blancs, Rouges, qui était aussi quelque chose d'important. Donc, il y avait toute une pratique comme ça, militante, qui imposait une réplique militante. Aujourd'hui, on a un mouvement, le mouvement qui, vraiment la figure de proue de l'extrême droite, qui est le Rassemblement National, est un mouvement dans lequel il n'y a plus de militants. pour ainsi dire, en tout cas qui n'a plus de pratique militante, qui ne va plus dans la rue, etc., et qui, en revanche, est dans les urnes quasiment à toutes les élections en position de force. Et donc ça, en tant qu'antifasciste, on ne peut pas juste se dire « bon, bah, ce n'est pas notre problème ». Nécessairement, c'est notre problème.
Alors, j'essaie de regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses, dans le chat, et il y a surtout tout un tas de gens qui disent que c'est du miel pour les oreilles de t'écouter, de t'entendre, et qu'enfin, on a le temps ici de pouvoir expliquer les choses dans leur complexité. Ça m'amène une question, celles et ceux qui participent par le chat ou qui nous écoutent, comment peuvent-ils se renseigner sur toutes ces nuances d'antifascisme, etc. Alors, il y a le site de la Horde, mais comment on peut faire ? Pour quelqu'un qui n'est pas encore dans l'engagement, qui aimerait l'être, où est-ce qu'on se rencarde ?
Alors, attends, tu veux dire pour s'engager
dans l'antifascisme ?
Alors, oui, il y a un outil qu'on a sur le site, nous, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un outil qu'on essaye de mettre à jour, et je pense qu'il n'y a que sur notre site que ça se trouve. On a fait une carte des groupes antifascistes locaux. Pour nous, la base, c'est de s'engager localement. Après, s'engager localement, ce n'est pas forcément s'engager localement dans un groupe antifasciste. S'il y en a un, tant mieux. Si les gens veulent s'organiser pour en monter un, tant mieux. Mais pour nous, l'antifascisme, il peut aussi se pratiquer dans le cadre de collectifs qui ne sont pas nécessairement... qui n'ont pas l'étiquette ou le label ou le logo Antifa. Être antifasciste, peut-être c'est par là qu'on aurait dû commencer, mais ce n'est pas grave, on va peut-être finir par là. Être antifasciste, c'est quoi ? C'est poser l'extrême droite, à la fois d'un point de vue idéologique et d'un point de vue pratique, comme un problème à résoudre, comme une difficulté à laquelle, fatalement, si on défend un projet de société égalitaire, je ne parle même pas de ceux qui vont être menacés dans leur être, mais même pour ceux qui, d'un point de vue de la lutte, veulent à un moment donné s'inscrire dans des luttes de solidarité, d'émancipation, des luttes égalitaires, quelles qu'elles soient, anticarcérales, de solidarité avec les migrants, féministes, sur toutes ces questions, à un moment donné, et surtout dans le contexte, l'extrême droite va s'imposer à vous comme un problème. Et donc, ce que proposent les antifascistes, c'est d'anticiper ça, à la fois au niveau de la réflexion, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, quel est le projet qu'elle porte, pourquoi, à un moment donné, on va s'y retrouver confronté et comment on va pouvoir y répondre, idéologiquement. Pourquoi aujourd'hui, et c'est sain d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'évidence antifasciste. Et donc, on ne peut plus juste dire « Ah, comme il y a eu une époque, hein, il suffit de dire « Ah, mais machin, c'est un raciste. » Et les gens disent « Ah ouais, d'accord. » Et puis ça s'arrêtait là, il n'y avait plus besoin de parler. Là, aujourd'hui, on se rend compte que si vous dites à quelqu'un « Ah, mais il est raciste », on va vous dire « Chacun ses idées. » Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu. Là, je prends l'exemple du racisme, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples hein, sur le nationalisme, j'en parle même pas, jamais questionné dans notre pays. Donc là, il y a vraiment des questions qui doivent être posées. Et un des aspects de l'antifascisme, c'est ça, c'est de rappeler aux gens que c'est un problème à régler spécifiquement et qu'il faut s'organiser pour s'en préserver. Les attaques, elles peuvent être judiciaires, elles peuvent être de rue, elles peuvent être, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, d'interdiction, de dissolution, ou même quand d'ailleurs l'extrême droite n'est pas encore directement au pouvoir, on l'a vu récemment. C'est tout ça l'antifascisme. C'est rien de plus que alerter sur un problème spécifique. À chaque fois, moi, je fais le parallèle avec, par exemple, les luttes anticarcérales. Parce que souvent, les gens disent « Oui, mais l'antifascisme, il y a plus important, il faut lutter contre le capitalisme, etc. » Évidemment. Mais encore une fois, l'antifascisme est une lutte spécifique qui pose un problème spécifique, mais qui s'inscrit dans un cadre plus large. Donc, pour répondre à ta question, parce que j'ai l'air de m'en être un peu éloigné,
non, mais tout va bien.
Pour l'engagement des gens, si c'est sur cette question-là, spécifiquement, si vraiment l'extrême droite, les gens pensent qu'ils ont quelque chose à apporter pour lutter contre et veulent s'engager sur cette question spécifique, tant mieux. Mais au-delà, je pense que le plus important, et c'est déjà être antifasciste que de faire ça, c'est de s'engager dans une lutte, parce qu'on en est là aujourd'hui, une lutte dans laquelle l'égalitarisme, j'insiste parce que pour nous c'est vraiment la pierre angulaire de tout, dans laquelle l'égalitarisme sera vécu, sera, on va dire, promu plutôt, en acte. Et ça peut être à travers des actions de solidarité, à travers des luttes émancipatrices, peu importe finalement le vecteur. C'est ça, nous, à quoi on engage les gens. Le but, c'est pas d'avoir un mouvement antifasciste avec des milliers de gens. Le but, c'est d'avoir des milliers de gens qui se battent pour les valeurs que l'antifascisme défend, ce qui est très différent.
Question pratique du chat. Est-ce qu'on peut contacter la Horde de manière confidentielle et, entre guillemets, sécurisée?
Alors, sécuriser entre guillemets, mais le mieux peut-être pour ça, c'est de nous écrire sur Signal. Donc c'est la Horde, LAHORDE.161. Ça, c'est notre identifiant. On peut nous envoyer un DM. Voilà, alors pour le coup, ce n'est pas du tout sécurisé, mais c'est aussi possible de nous contacter sur Instagram. Là, vous mettez la Horde Antifa et vous tombez sur nous, sur Blue Sky, voilà, principalement. Et puis sinon, nous envoyer un mail, contact@lahorde.info. Pareil, ce n'est pas spécialement sécurisé. Le moyen le plus sécurisé pour l'instant, c'est par Signal, avec toutes les réserves qu'on peut avoir malgré tout.
Signal. Et le contact humain, à un moment donné.
Voilà. Et après, voilà, il y a aussi la possibilité...
Les bonnes vieilles recettes.
Là, c'est plutôt pour les groupes antifascistes.
Bien sûr.
Et quand je dis antifasciste, c'est au sens large, qui peut être des gens qui seraient militants, militantes dans ces groupes-là et qui nous écoutent. Nous, on est toujours disposés, alors dans la mesure de moyens, nous, il n'y a personne qui est permanent chez nous, hein, tout le monde travaille, donc on a du temps que le soir, le week-end, quand on peut. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait, on se déplace et on discute, y compris pour des formations internes, par exemple. On ne fait pas que des trucs publics. En fait, c'est à la demande, quoi.
J'aimerais qu'on évoque le SCALP dans les années 80, section carrément anti-Le Pen. J'avais oublié, mais en relisant le bouquin, là, j'avais complètement oublié les premières actions. Est-ce que tu te souviens des premières actions qui sont extrêmement spectaculaires de la part du SCALP, section carrément anti-Le Pen ?
Alors,
je parle en fait si du plastiquage.
Si tu parles du SCALP d'origine, c'est-à-dire
d'origine.
Celui de Toulouse, qui, il faut quand même le rappeler, n'était pas un groupe. En fait, le SCALP de Toulouse, c'est une habitude toulousaine de l'époque, qui est à chaque fois qu'il y avait une campagne et des actions, on créait un acronyme. Souvent, c'était des trucs un peu rigolos comme ça. Donc là, y a Le Pen qui devait venir faire un meeting dans une grande salle à Toulouse. Donc tout le milieu militant s'organise et il y a une. Et donc, on va, à ce moment-là, le SCALP émerge non pas comme groupe, mais comme logo à utiliser pour une campagne. Et effectivement, l'action la plus spectaculaire, ça va être le plastiquage de la salle. Il faut quand même aussi... On est aussi dans une époque où, à Toulouse, on plastique beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
C'était pas propre à la lutte antifasciste. En général, quand on rencontrait un problème, il y avait toujours quelqu'un à Toulouse pour faire péter le lieu.
Donc, pour les plus jeunes, Le Pen devait venir faire un débat.
Un meeting.
Et la veille. Hein, il ne s'agit pas de plastiquer.
Ah, bah non, oui.
Il ne s'agit pas de plastiquer pendant le truc. Non, hein. Non. C'est-à-dire, l'idée, non, bah, c'était pas la... de faire de victime.
L'idée, c'était il veut aller, voilà. Il veut faire son meeting à tel endroit, on va supprimer l'endroit, il n'y aura plus de meeting. Le fait est que c'est ce qui s'est passé.
Voilà,
après, il y a eu aussi, au nom du SCALP, alors je ne crois pas d'ailleurs que l'attentat ait été revendiqué au nom du SCALP, mais en revanche, il y avait après des manifs et qu'on regroupait beaucoup de gens. Alors, il faut aussi voir qu'au milieu des années 80, spécifiquement comme ça dans le Sud, mais en vrai un peu dans toute la France, les milieux militants étaient un peu en dépression. On est à la fin de beaucoup de luttes antimilitaristes, etc., et donc, on a besoin de se ressouder un petit peu et puis de retrouver un peu de niaque autour d'une lutte. Et il se trouve que c'est au même moment, le pouvoir socialiste fait monter dans les médias l'extrême droite et le Front National fait son apparition, en fait, sur la scène publique. Et là, tout le monde se dit, bon, on a beaucoup de divergences, on passe notre temps à s'engueuler. Il y a un sujet sur lequel tout le monde sera d'accord. C'est la lutte contre l'extrême droite. Et donc, ça a été quelque chose de fédérateur dans un premier temps. Après, les SCALP, le SCALP de Toulouse, donc, qui n'était pas un groupe, je le précise, mais qui avait aussi développé tout un imaginaire visuel autour de la figure de l'Indien, etc., a essaimé. C'est-à-dire qu'après, quand Le Pen s'est déplacé, il s'est retrouvé à nouveau confronté, alors pas toujours à des groupes qui s'appelaient SCALP, les groupes pouvaient avoir d'autres noms, mais là, pour le coup, ça s'est un petit peu ancré dans la réalité locale, et on a vu des gens reprendre cet imaginaire, cette imagerie plutôt, et puis le nom même parfois, ou même parfois aussi d'autres noms, Il y avait le cafard, il y avait plein de noms différents. On aimait bien les trucs comme ça à l'époque, un petit peu. C'est aussi une façon, ça, c'est quelque chose de très important. On n'aura pas eu le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui. C'est le pas de se prendre trop au sérieux non plus. Nous, c'est pour ça, par exemple, à travers nos stickers. Bon, il y a des stickers un peu vénères, mais on a aussi des stickers plutôt un petit peu un peu drôles. Il faut aussi pas perdre de vue cette dimension-là, comme l'extrême droite, je veux justement imposer des rapports extrêmement tendus, violents, de domination, des choses comme ça, très, très dures. Bon, il y a aussi à un moment donné l'autodérision ou la dérision tout court qui peuvent être une arme. Et donc, à l'époque, c'était déjà présent. C'était aussi une façon de désamorcer un petit peu, pareil, la question de la confrontation violente. Donc, on revient toujours un petit peu aux mêmes questions. Et voilà. Et ça, ça va prendre. Et il y a une tentative de coordination de tous ces groupes antifascistes radicaux, à l'époque, c'est comme ça qu'on disait, au sein d'une coordination nationale antifasciste, la CNAF, mais qui ne va pas fonctionner. En fait, il faudra attendre le début des années 90 pour l'émergence sur, on va dire, les cendres de la CNAF, d'un réseau donc, qui s'appelle Nopasaran, revendiqué antifasciste, mais en réalité, qui était surtout un réseau libertaire, égalitaire, solidaire, avec... en revanche, une identité antifasciste affirmée, mais qui, dans ses pratiques, faisait bien d'autres choses.
Ça m'amène à la situation aujourd'hui. Il y a l'Observatoire national de l'extrême droite, on peut dire autour de LFI. Il y a la DIG autour de Pouria, député écolo. Il y a autour de du fils de Marc Plocky, du fils de... Oh, tout d'un coup, son nom m'échappe. Rachfus, voilà.
C'est Riposte.
Il y a Riposte, il y a un certain nombre de collectifs comme ça qui émergent, qui existent. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que l'éclatement est un signe de vivacité et d'émancipation ou au contraire de dispersion? Comment on fait? Parce que l'heure est grave, quoi.
Là, tu parles de structure. Alors, à
de structure de réflexion.
À l'exception de Riposte, là, avec lesquels, pour le coup, nous, on a des contacts.
Oui.
Dans le cas des autres exemples que tu as donnés, on est plutôt quand même dans le cadre d'un antifascisme dans lequel nous, on ne se reconnaît pas forcément.
D'accord.
Mais le fait de ne pas se reconnaître dans cette forme d'antifascisme-là, ça ne veut pas dire que c'est des antifascismes antagonistes. C'est ça qu'il faut bien entendre.
C'est, c'est-à-dire c'est
qu'à
ce
un
que
moment
tu as
donné,
dit tout à l'heure, bien sûr. Oui,
c'est
oui.
Des choses qui peuvent être complémentaires. Là, ce qui manque réellement, à une exception... c'est les campagnes anti-Bolloré. Mais ce qui manque, c'est vraiment des campagnes communes dans lesquelles chacun, avec ses pratiques, avec son point de vue, pourrait s'intégrer. Et honnêtement, c'est quand même stimulant. Là, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voit et les soulèvements de la Terre, donc aussi des groupes qui sont antifascistes, mais qui n'ont pas une identité antifasciste forcément mise en avant, en tout cas dans le nom, quoi. Et des groupes antifascistes et toutes sortes de gens se mobiliser contre Bolloré, à la fois par rapport à ses intérêts sur les questions écologiques, etc., mais aussi qui prennent en compte le travail de banalisation des idées d'extrême droite que ces médias portent. Et tout ça, c'est un point comme ça de sur lequel pas de coordination encore, mais en tout cas un point de convergence de lutte. Et c'est ça qui manque plus, je pense, qu'une organisation ou une grande coordination nationale dans lequel
oui.
Ça pourrait être aussi. Nous, on a cette expérience-là dans Nopasaran. Quand Nopasaran, à un moment, a grossi, toute proportion gardée, très vite, on s'est retrouvé confronté à des problèmes d'orga. Et là, c'est vrai que pour l'instant, l'antifascisme est assez mouvant. C'est aussi un problème pour la répression. Le fait que, parce que les gens qui disent oui, il faut interdire Antifa comme aux États-Unis ou comme en Hongrie, le problème, c'est qu'il n'y a pas justement un mouvement antifasciste unifié qui s'appellerait Antifa. Il n'y en a pas plus aux États-Unis qu'en Hongrie. Et donc, il y a le fait que l'antifascisme soit aussi un petit peu comme ça insaisissable, le fait qu'il s'exprime dans des milieux et qu'il s'adresse à des publics différents, c'est aussi une très bonne chose. Donc moi, je ne verrais pas ça comme un éclatement ou comme une dispersion, mais comme une diffusion. Après, évidemment, c'est mieux d'être coordonné. Mais je pense qu'il faut déjà se coordonner. Je sais que Riposte a ce projet-là. En fait, le projet de Riposte est assez semblable au nôtre dans un aspect, dans une partie, c'est-à-dire de fournir des outils. là plus sur la question de l'antifascisme républicain. Mais encore une fois, je le dis sans mépris,
oui,
et
oui,
avec toutes les précisions que j'ai apportées tout à l'heure. Donc aussi un antifasciste qu'on pourrait dire, pour être un peu plus positif, peut-être plus ouvert, plus accessible, parce qu'il y a aussi ce truc de l'antifascisme autonome que, je sais pas, quelqu'un dans le chat disait, moi, j'arrive pas. Enfin, nous, régulièrement, les gens nous disent, j'ai contacté le groupe, on m'a jamais répondu. C'est vrai que c'est des groupes parfois qui sont affinitaires, c'est des groupes qui sont aussi assez méfiants. On fait attention parce que c'est dangereux d'être antifasciste aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a aussi cette difficulté d'accès. Nous, on essaie d'y pallier en proposant la plateforme, mais à Riposte, il y a vraiment aussi cette idée de s'adresser à un public plus large, différent. Il y a aussi des questions de génération, tout simplement. Et je pense que tout ça va dans le même sens. Il y a la même urgence. Et après, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de réalisation vraiment concrète de ça. Mais je pense que des gens y travaillent, oui.
On arrive à peu près sur la fin de l'entretien. Je ne voudrais pas te gâcher toutes tes vacances en te gardant des heures et des heures. Quel regard vous portez sur le rôle de la presse, et notamment de la presse indépendante, type Street Press, type Mediapart, où, alors là, elle n'est pas indépendante, mais il y a quelques journalistes à Libération. Est-ce que là, par exemple, tu vois une nouvelle génération de journalistes éclore qui font un travail particulier, quasi obsessionnel dans le bon sens du terme, sur l'extrême droite, tandis que le reste de la presse a épousé une grande partie de ces valeurs-là. Est-ce que vous appuyez dessus ? Quel est votre regard là, sur eux, sur leur
Alors,
travail ?
On va dire que c'est un peu contrasté.
Vas-y.
Le point positif, c'est que nous, quand on a lancé le site de La Horne, il y en avait parmi nous...
Contre-attaque,
oui. Alors, Contre-attaque est dans une démarche, pour le coup, différente.
Oui, c'est autre
chose. Il faudra quand même faire la part des choses.
Bien sûr.
Et donc, en tout cas, quand nous, on a lancé La Horde, à ce moment-là, l'extrême droite n'était plus trop un sujet dans la presse. Plus personne ne travaillait dessus. C'était plus rentable. Ça faisait plus... Alors, très vite, il y a Street Press, je ne sais plus quand c'est arrivé, mais c'est arrivé quand même assez rapidement. Et nous, on a vu, quand Street Press s'est monté, quelque chose qu'on ne voyait plus du tout dans la presse, c'est-à-dire des enquêtes longues. C'est-à-dire un vrai travail aussi en collaboration avec les antifascistes pour essayer de bien comprendre, en particulier sur l'extrême droite radicale, ce qu'il en était. Ils ont mis à disposition des outils et ça c'était très bien parce que nous, ça nous a aussi un peu déchargé. C'est-à-dire que dans les premiers temps à La Horde, on faisait beaucoup d'enquêtes.
Absolument.
Pourquoi ? Parce que la presse n'en faisait plus, pour ainsi dire. Et donc, il y avait vraiment un vide à ce niveau-là. Sauf que quand on n'est pas professionnel... faire une enquête sur l'extrême droite, ça prend un mois, on fait ça comme on peut. Et voilà, on était dans une temporalité complètement différente. Mais comme il n'y avait pas, de toute façon, de publication vraiment sur l'extrême droite radicale, on pouvait prendre notre temps. Et puis, Mediapart, puis Street Press, et puis Libé ont commencé un petit peu à davantage s'intéresser au sujet. Mais comme ce sont des médias commerciaux, il y a aussi de la concurrence, il y a aussi la nécessité de produire de l'information. Et ce qui pouvait être intéressant dans les premiers temps, c'est-à-dire vraiment de prendre à bras-de-corps le sujet, et là je dis Street Press a vraiment fait un travail à cette époque vraiment très, très important, est devenu finalement une façon de faire vivre son média. Et je le dis sans jugement de valeur, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier... que c'est des structures professionnelles qui doivent vivre aussi. Et pour qu'elles vivent, elles doivent produire de l'information. Et par exemple, il y a eu un moment, et je crois que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a eu vraiment un moment où, quand il y avait les lettres quotidiennes, enfin d'abord hebdomadaires, puis quotidiennes, ces médias-là se sont mis à produire de l'information pour produire de l'information. C'est-à-dire que des informations qui ne méritaient pas, par exemple la création d'une page Insta, etc., devenaient un événement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait aussi prouver, il y a aussi une concurrence sur l'information entre ces différents médias, il fallait montrer lequel était le mieux informé, lequel allait pouvoir montrer que, ils étaient à la pointe. Donc il y a ces dimensions-là. Encore une fois, je ne porte pas le jugement de valeur dessus, mais il ne faut pas les perdre de vue, parce que ça existe. Là où Contre-attaque, ou nous, ou d'autres médias militants, on n'est pas dans cette démarche-là. On n'est pas là pour, je le dis un peu brutalement, mais pour vendre du papier ou faire des clics. C'est pas notre objectif. Alors que nécessairement, et Street Press, et Mediapart, et encore plus Libé, là, c'est carrément une entreprise. Enfin, c'est pas une presse indépendante, donc en parlant, c'est encore autre chose. Là, il y a vraiment, c'est une machine à fric, sont pas dans cette démarche. Et nous, ce qui nous gêne un petit peu, c'est que, bien sûr, les journalistes de ces médias, enfin, je pense à Street Press en particulier, certains d'entre eux sont dans une démarche militante, dans leur esprit. Et mm-hmm. c'est vrai. Je ne suis pas en train de distribuer les bons ou les mauvais points, mais ils sont aussi journalistes professionnels. Et ce qui nous gêne un petit peu, c'est la confusion entre des médias militants et de la production de l'information militante avec de la production journalistique professionnelle qui répond aussi à d'autres impératifs qui sont des impératifs économiques. Je dis juste qu'il faut l'avoir en tête parce que forcément, ça biaise. Par exemple, sur le fait, nous, on fait un schéma sur l'extrême droite depuis 15 ans. On a fait aussi une carte, bien avant celle de Street Press, sur des groupes locaux. Nous, on met à jour ces outils-là parce que s'ils ne sont pas à jour, ils ne servent à rien. Alors que l'on voit, par exemple, il y a eu une espèce de course à l'échalote entre Street Press et Libé pour avoir le plus de groupes d'extrême droite possible sur leur carte, pour montrer que c'était eux qui avaient le plus d'infos. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Bah, ça crée l'illusion qu'en France, tu as 300 groupes d'extrême droite qui sont actifs, que tu as des milliers, des dizaines de milliers de militants nationalistes surentraînés qui se battent dans les forêts et qui sont là. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une réflexion sur, d'abord, est-ce que c'est réel? La réponse est non. En France, il y a peut-être une trentaine de groupes nationalistes radicaux actifs sur le terrain et qui comportent la plupart du temps une dizaine de militants. Donc ça, c'est la réalité. Et d'autre part, l'impact psychologique de terreur que ça peut provoquer chez les gens et tout l'intérêt pour les groupes nationalistes à cette publicité gratuite. Donc il faut quand même avoir en tête ces préoccupations-là. Des militants peuvent les avoir. Des gens qui sont animés par le fait de faire vivre un business peuvent l'être moins. Encore une fois, je ne fais pas un procès d'intention, surtout pas à Street Press, qui, en plus de ça, est en butte à la répression, à des attaques judiciaires régulières de la part de l'extrême droite, dont les journalistes prennent des risques aussi pour faire leur travail. Donc je ne suis pas en train de dénigrer ça.
Je pense que c'est aussi le cas de ceux de Libé et de Mediapart.
Oui, peut-être, dans une moindre mesure, je dirais. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et c'est particulièrement vrai de Libé, l'essentiel de leurs informations viennent des militants antifascistes, plus que de leur travail spécifique. Ça, il faut quand même le dire. Alors, bien sûr, il y a tout un travail que seuls les journalistes peuvent faire, de contact avec la police, par exemple, ou de pouvoir aller dans des conférences de presse, etc. Donc, c'est intéressant et c'est utile. Mais souvent, les informations pointues, elles viennent aussi du milieu antifasciste. Donc, il ne faut pas non plus déléguer totalement à la presse professionnelle le travail d'information qui fait partie, qui est une des composantes essentielles de l'antifascisme. Et d'ailleurs, beaucoup de groupes locaux le font. Et il est arrivé, et nous, ça nous est arrivé spécifiquement avec Libé, de se faire piller outrageusement un article, jusqu'au titre, parce qu'évidemment, nous, quand on diffuse des informations, elles sont libres de droit, il n'y a pas d'histoire de copyright ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, il y a aussi ce truc de, bon, on se sert allègrement, et ça, on l'a vu de la part de bien des journalistes, de faire copain-copain avec des antifas pour en fait soutirer des informations. C'est aussi des pratiques qui existent. Je ne dis pas que tous les journalistes le font. Je ne dis pas que leur travail n'est pas important. Et d'ailleurs, nous, la meilleure preuve, c'est que depuis, sur notre site, on a une revue de presse. Donc, on reconnaît qu'il y a tout un travail, il y a beaucoup de choses que nous, on apprend grâce au travail des journalistes. Des choses dont on ne serait pas au courant. Donc, encore une fois, je pense que c'est utile. Mais dans le rapport entre la presse et le militantisme, c'est plus là-dessus que nous, on voudrait apporter ce petit bémol. Encore une fois, je ne dis pas que, par exemple, ce n'est pas intéressant d'inviter des journalistes qui travaillent sur l'extrême droite dans un cadre militant. Je ne dis pas ça du tout. Mais je dis que c'est intéressant d'avoir aussi, en contrepoint, un point de vue militant sur l'actualité.
Mon cher Hervé, est-ce que je peux te demander, avec la même franchise, d'essayer de faire une forme de réflexion, d'introspection sur ce que l'antifascisme a loupé ces dernières années. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, très bien de comment l'extrême droite s'est modifiée, abandonnant le terrain pour devenir ce que l'on sait, c'est-à-dire le rond de serviette sur tous les plateaux télé, etc., et se faisant accepter par une partie de la société. Où est-ce que le camp antifasciste dans lequel je me mets, a merdé, n'a pas réfléchi, n'a pas réagi assez vite, assez fort. Et je demande ça non pas pour dire du mal, mais pour dire comment on peut s'améliorer, quoi.
Alors, encore une fois, comme...
Avec la même franchise que tu as eue sur la presse,
je vais te dire la même chose. Ouais. C'est difficile de reprocher... là, je parle pour les groupes antifascistes spécifiques, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment sur la question de la lutte de l'extrême droite. Nous, on n'a jamais lâché, puisque c'est notre sujet, par exemple au début des années 2000, parce que c'est ça qu'il faut repartir de d'où ça vient, ce désamour, on va dire, vis-à-vis de l'antifascisme. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, c'est-à-dire jusqu'aux plus grosses manifs contre l'extrême droite, c'est-à-dire le moment où Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, juste après, tout le monde, tous les observateurs, commentateurs, spécialistes, etc., disent l'extrême droite, c'est fini. C'était parce que c'est la vision qu'on a en France de l'extrême droite. C'est toujours un phénomène, un épiphénomène, une espèce de crise. C'est un moment où la population pète les plombs. Voilà. Et puis après, tout rentre dans l'ordre. Et donc là, le FN, ça avait duré longtemps, mais on dit fin de l'histoire. En plus de ça, la même année, en juillet, donc ça c'est au mois de mai, au mois de juillet, il y a un jeune militant néofasciste qui tire, qui essaye de tuer le président de la République. Donc on va dissoudre tout ce que l'extrême droite radicale compte comme groupuscule. Et donc on se dit, le FN c'est fini, les groupuscules radicaux c'est fini, l'extrême droite c'est fini, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Parce que tout le monde a envie de passer à autre chose. Et il y a d'autres choses, il y a les contre-sommets, enfin, on se dit qu'il faut changer d'échelle, quoi. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir le nez sur le FN, on en a marre. Ça fait 20 ans qu'on lutte là-dessus, on n'en peut plus. Et donc, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. Et il se trouve que dans le même temps, pendant toutes les années 2000, l'extrême droite se reconstruit. Elle se reconstruit au niveau radical autour des identitaires, et puis elle va se reconstruire autour de Marine Le Pen et d'une normalisation, de ce Front National débarrassé des dingueries de son père fondateur. Quoi. Et donc, du coup, tout ce phénomène-là, nous, en tant qu'antifascistes, on l'observe, on le documente, on en informe. Ce qui s'est passé, c'est que, et c'est ça le problème des luttes spécifiques, c'est que tu apportes des éléments, puis après, les gens s'en emparent ou pas. Et là, les gens ne s'en sont pas emparés. C'est-à-dire que quand l'extrême droite est revenue sur le devant de la scène, au début des années 2010, à la fois dans la rue, avec une résurgence du mouvement skinhead et de la violence de rue, et en même temps, Marine Le Pen qui arrive à présidente du Front National et qui donc du coup, on voit que là, il y a un changement de paradigme, un changement de vision de l'extrême droite électoraliste. Que font les antifascistes au sens large, mais pas les antifascistes au sens spécifique, mais que fait le camp de la gauche, on va
dire. C'est ça, voilà.
Eh bien, on reprend nos habitudes des années 90 comme s'il ne s'était rien passé. C'est-à-dire, on ne va pas tenir compte de cette évolution de l'extrême droite. Et on va se dire, on va reprendre la recette qui avait marché dans les années 90. Et donc, c'est résurgence de l'antifascisme moral, d'un antifascisme un petit peu paresseux. Et là où nous, on a échoué, en tant que groupe spécifique, c'est justement à mettre en lumière cette spécificité de l'extrême droite. Pourtant, on a vraiment essayé de le faire, en particulier sur le fait que nous, d'un phénomène qu'on a identifié très tôt, qu'il n'y avait plus d'évidence antifasciste. Qu'on sentait bien que ça, c'était fini. Que dire, F comme fascisme, N comme nazi, c'est mort. Je veux dire, c'est plus là-dessus qu'il va falloir se reconstruire sur d'autres choses. Et sur des choses qui sont, en plus de ça, constitutifs de l'antifasciste radical, c'est-à-dire le lien avec le racisme systémique, avec l'histoire coloniale de la France, avec l'outil de répression de l'État, les violences policières, etc. Tout ça était déjà là, il y avait juste à le réactiver. Et en fait, on n'a pas réussi à le faire sortir un petit peu de notre
cercle
entre-soi antifasciste, ça c'est sûr. À côté de ça, il y a eu beaucoup d'évolutions positives de la scène antifasciste sur l'intégration, en particulier de la question queer ou des choses comme ça, dans cette période. Donc il y a eu aussi quand même, heureusement, l'antifascisme a un peu bougé sur ces lignes. Mais on n'a pas anticipé du tout le fait que notre combat allait devenir une lutte à défendre. Et on est resté sur ce positionnement d'un antifascisme d'évidence, dans lequel tout le monde se reconnaissait. C'est le Siamo tutti antifascisti, qui est en soi un très beau slogan, mais qui est un slogan un peu pour se rassurer. Parce que dans la réalité, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de dire ça. Autant tout le monde déteste la police, je pense que oui. C'est quelque chose qui résonne beaucoup plus que s'il y a mot outil antifasciste, malheureusement. Et donc, ça veut dire que cet antifasciste, d'autant plus qu'il est attaqué, il faut lui redonner un petit peu de panache. Il faut lui redonner l'envie, envie aux gens de revenir vers lui. Et non pas comme une lutte du passé, mais au contraire. Comme une lutte d'émancipation encore. Moi, j'insiste beaucoup sur ce mot-là parce que ça me semble important. C'est une façon, l'antifascisme, non pas simplement de se protéger de quelque chose, mais de vraiment d'avancer à travers la lutte contre notre exact opposé, de construire un monde meilleur. Et ça, c'est vrai que l'antifascisme y travaille. Mais pour l'instant, on est dans la tourmente. Alors, c'est toujours pareil. Nous demander, je ne juge pas du tout la question, mais c'est un peu normal de dire, bon, bah, c'est quoi, en fait, à quel moment vous avez merdé pour qu'on en arrive là ?
Non, j'ai dit nous.
Hein, oui, vu, à quel moment on a merdé, pour en arriver là ?
Tu vois, il y a
la gauche en général. Bon, bah, sur la question de la gauche, je pense que c'est une autre discussion avec d'autres gens que nous, parce que je pense qu'il y a plein d'autres... C'est pas la question de l'antifascisme qui est la pierre angulaire de la défaite de la gauche, mais en revanche, sur... spécifiquement la lutte contre l'extrême droite, c'est vrai que cette normalisation, cette banalisation, on ne l'a pas toujours bien interprétée, je pense. Et surtout, on a voulu la déconstruire comme étant « Non, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Non, ce n'est pas vrai que le... Regardez, il suffirait de renvoyer l'extrême droite à son histoire, etc. pour qu'à nouveau, les choses redeviennent comme avant. » Mais les choses, elles ne redeviennent jamais comme avant. Maintenant, il va falloir pratiquer un antifascisme qui intègre le fait que oui, l'extrême droite s'est normalisée, mais le fait qu'elle se soit normalisée et banalisée, ça ne veut pas dire qu'elle doit être, pour nous, quelque chose de banal, quelque chose d'accepté. Quand une chose se banalise, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Ça veut juste dire qu'elle est là. Et ça, c'est quand même finalement stimulant, moi je pense, pour l'antifascisme aujourd'hui, de devoir prouver que notre projet de société vaut mieux que le leur. Et dans la tourmente, c'est normal aujourd'hui, dans les périodes de crise, que les gens aient la tentation inégalitaire. Et ben, c'est ça l'enjeu. Et là, pour le coup, c'est un enjeu qui dépasse l'antifascisme, qui est un enjeu pour la gauche, d'être fort sur ses positions et ne pas faire de compromis avec ça.
Deux ultimes questions qui sont rituelles et qui me permettent de dire que quelques minutes après l'émission qui est en direct, sur le site, il y aura tous les liens que Eurial a donné dans la modération sur notre nouveau site oposte.media. Allez donc le visiter. Vous allez voir, on a foutu le turbo sur cette affaire. Deux petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un conseil culturel ? Alors, ça peut être lié à l'antifascisme ou pas, un disque, un film, un bouquin, ce que tu veux, une recette culinaire, n'importe quoi. Ça peut être un vieux machin, un truc tout récent. C'est juste, voilà.
Un conseil de lecture ou de...
De lecture, par exemple.
Sur l'antifascisme ?
Pas forcément. Ce que tu veux.
Ah là, tu me prends en dépourvu.
Ah ben, c'est fait exprès. Le dernier film que tu as vu, ou la série, ou...
Ah, quelque chose d'individuel ? Ouais, mais c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais conseiller ? Non, je vais dire des bêtises. Parce qu'après, mais tu vois, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut lire ? Est-ce que j'ai lu quelque chose de stimulant, vraiment, pour... Il y a un livre, le problème, c'est que je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en parler, que j'ai acheté.
Ah la merde, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras comme
ouais,
ça.
Bon, là, franchement, non, je ne sais pas quoi dire.
Ben, ce n'est pas grave.
Alors, je préfère rien dire que dire un truc bête.
Il y avait des gens qui te proposaient... alors, c'est Raoul
Pérez... Alors, je l'ai vu, là, pour le coup, je l'ai vu.
C'est 2+2=5,
et j'ai pas... Mais là, pareil, je...
T'as
moi,
pas accroché.
Pas trop... En fait, voilà le problème. C'est que moi, je suis venu pour parler au nom de la Horde. À titre individuel, par exemple, j'ai vu 2+2=5, que je n'ai pas trouvé incroyable. J'aime beaucoup Orwell.
Raoul Peck.
Et j'aime bien aussi Raoul Peck. Mais là, j'ai trouvé que c'était... bon, c'est sûrement un film nécessaire dans le contexte, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé formellement... J'étais un peu déçu par rapport à ce qu'on pouvait attendre aussi de Peck. Bon, voilà. Mais quel intérêt que je donne ma vision individuelle de ce film, je pense franchement non. Et j'ai pas envie de faire de l'autopromo, parce que c'est vrai que ce que j'ai envie de dire, c'est un peu moche.
Mais
j'ai envie de dire aux gens, franchement, lisez, allez sur le site des éditions Libertalia, téléchargez gratuitement 10 questions sur l'antifascisme, et je pense que vous aurez mieux dit même que ce que j'ai dit ce matin, un petit peu condensé. Et il y a aussi des conseils de lecture. Il y a le bouquin de Marc Bray qui a été traduit en plus de ça. Alors, il se lit très bien en anglais, qui me semble vraiment un livre nécessaire. Pour le coup, peut-être s'il n'y en avait qu'un à lire, ça serait celui-là. Et parce qu'il a une dimension internationale aussi, ça c'est très important. Là, on n'a parlé que de la France, bah, parce que c'est ce sur quoi nous on travaille. Mais il ne faut pas oublier la dimension internationaliste de l'antifascisme. Là, vraiment, ouais. Donc le bouquin de Marc Bray, en plus de ça, Marc Bray était contraint de fuir les États-Unis, étant donné le contexte, et de se réfugier en Europe. Donc bah, voilà, Antifa de Marc Bray, ça me semble un bon...
Super.
Un bon livre de chevet.
Et donc là, l'ultime question, c'est qu'est-ce que nous avons fait pendant une heure et demie, mon cher Hervé de la Horde ? Qu'est-ce qu'on a fait ?
Bah, on a parlé, les gens nous ont écoutés, et puis maintenant, bah, et nous, et elles et eux, bah, il faut qu'on agisse. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Super. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Merci.
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous à Opposte. Abonnez-vous à Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous à Opposte.fr. Opposte.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi ? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opposte.
Abonnez-vous !
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous !
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi, là. Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas ? Faites un don à Opposte, il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don ?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.